10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. 40% des infirmiers souhaiteraient changer de métier. Tel est le résultat d'une consultation menée à l'échelle nationale et parue ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. La crise sanitaire liée au coronavirus n'est pas seule en cause. Elle n'a fait qu'aggraver une situation déjà bien dégradée. Avant l'épidémie, les soignants manifestaient déjà et dénonçaient le manque de moyens et d'effectifs dans les hôpitaux publics. Un accident rarissime. Hier, un avion de tourisme a percuté un ULM en Indre-et-Loire. Le bilan provisoire fait état de 4 morts. Une personne probablement tombée de l'avion est toujours recherchée. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Le secrétaire d'État au numérique Cédric O dévoile le plan de contrôle gouvernemental du déploiement de la 5G, une mesure destinée à apaiser les esprits alors que de nombreuses voix s'élèvent contre cette mesure. C'est le cas par exemple à Lille où la métropole a adopté un moratoire visant à sursoir à toute décision dans l'attente du rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, sur le sujet. Une semaine après le passage de la tempête Alex, qui a dévasté les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie dans les Alpes-Maritimes, les autorités appellent à limiter la circulation sur des routes encore dégradées où des risques d'éboulement ne sont pas exclus. Une situation rendue plus instable par les pluies qui sévissent encore ce week-end dans la région. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le président Trump est reparti en campagne présidentielle 5 jours après sa sortie de l'hôpital pour avoir été contaminé à la Covid-19. Il a tenu hier soir une allocution depuis le balcon de la Maison-Blanche. « Je vais bien », a-t-il lancé à ses supporters, 500 personnes présentes. Donald Trump doit partir en meeting cette semaine en commençant par la Floride dès lundi. Enfin, en football, 3e journée de la Ligue des Nations et cette superbe affiche ce soir, les Bleus, champion du monde, affronte le Portugal, champion d'Europe. Un match déterminant pour prendre la tête du 3e groupe.
Bonjour, nous vous rappelons que ce soir se termine le Salon du Cheval à l'Hippodrome de la Villeneuve à Rambouillet avec plus de 40 exposants. Il y a également des animations puis des courses de galop amateurs. C'est donc à l'Hippodrome de Rambouillet. Et puis ce jour, ce dimanche matin plus précisément à Saint-Arnoult-en-Yvelines, ça sera la fin de la collecte alimentaire au profit du Centre Communal d'Action Sociale organisé par la EDAVIA. L'organisation organise au profit du CCAS la collecte de produits alimentaires, produits d'hygiène, conserve de légumes, plats préparés, produits secs, pâtes, riz, semoule, café, sucre, chocolat en poudre pour les familles en difficulté. On revient sur une information que nous évoquions hier dans notre flash, à savoir la création d'un arrêt de bus à Pont-Évrard dès le retour des vacances de la Toussaint. Aurore Berger, dans un communiqué de presse, a indiqué que son action, jumelée avec l'action de la nouvelle équipe municipale, avait permis, grâce à la réactivité de Transdev, de créer dès la fin des vacances de la Toussaint un nouvel arrêt de bus à Pont-Évrard. La mise en service de cet arrêt supplémentaire permettra aux élèves de la commune de rejoindre plus facilement les établissements scolaires de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Rambouillet et Dourdan. Je me réjouis que notre mobilisation conjointe auprès de Transdev ait permis la réhabilitation de cet arrêt qui apporte ainsi une réponse adaptée aux besoins des Évry-Pontins, a précisé la députée de la 10e circonscription, Madame Aurore Berger. Et l'on parle de Rambouillet et de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire. Suite à l'annonce de la ville de Rambouillet de fermer le théâtre Le Nickel pour des raisons de sécurité, la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire était contrainte de suspendre l'activité du cyberespace de Rambouillet en attendant de trouver une solution adaptée au nouveau contexte. Les personnes qui souhaitaient aller au cyberespace à Rambouillet sont invitées à se rendre à celui de Rézeux ou de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Plus d'informations sur le site www.rt78.fr. Et je vous rappelle que ce soir se termine la 16e édition du parcours d'artistes Helium. 59 artistes vous proposent la visite de leur atelier. L'association Helium offre depuis 12 ans une escapade peu commune, début octobre, à la découverte de leur atelier, une autre façon de parcourir aussi le territoire du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et puis parlons du Sictum. Depuis le 1er octobre, la couleur des couvercles des bacs du Sictum de la région de Rambouillet change. Bac à ordures ménagères gris anthracite, bac emballage jaune et bac pour le verre vert. Ces nouveaux couvercles seront distribués au fur et à mesure des réparations et ou changements de bac. Le parc actuel sera ainsi progressivement remplacé. Cette modification ne change en rien l'organisation des collectes. Merci d'avoir suivi ce flash. Bon dimanche à tous.
Ça se passe près de chez vous et c'est sur RVE.
We'll be right back. RVE 137, il est 10h passé de presque 5 minutes. On va retrouver bien tout simplement le sport avec Tribune Sport. Et la météo d'aujourd'hui, c'est un ciel très nuageux qui va devenir plus variable avec 7 degrés ce matin et 11 degrés l'après-midi avec de courtes éclaircies et quelques faibles averses.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carny.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver hein, dans une actu sportive particulièrement dense ce week-end. Hein, alors on va l'accompagner, puisqu'aujourd'hui un des grands événements de ce dimanche de sport, c'est naturellement Roland-Garros. Roland-Garros, un 11 octobre final, on va en parler avec nos invités de ce matin. On salue d'abord le président de la section tennis de la Clairière, Nicolas Ricard. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Ça va, Roland-Garros au mois d'octobre?
Ouais, mais ça change. Hein.
Oui,
hein. Ça... Ouais, exactement.
Donc on va en parler, on va en... Et puis, bah, aussi un fidèle à l'habitué qu'on n'avait pas eu depuis un petit moment à ce micro, c'est notre ami Hervé Guérin du Tennis Club du Perret en Yvelines. Salut Hervé, ça va?
Ben, bonjour Philippe, ouais. Content de revenir à RVE, depuis une petite durée, de retrouver les auditeurs.
Très bien, donc je l'ai dit, hein, naturellement, Roland-Garros, donc on parlera, on fera le bilan de cette quinzaine un peu particulière et un peu différente cette année. On parlera aussi pour l'occasion de la rentrée de vos clubs. Et puis je voulais vous dire, comme il y a tout plein d'événements sportifs quand même, qu'il faut pas oublier qu'il y a la suite du salon du cheval depuis donc ce matin 9h et ce soir jusqu'à 19h. Toutes les activités autour du sport cheval vous sont présentées. On y était hier, on a ramené quelques interviews qu'on vous passera cette semaine dans nos journaux locaux. Et puis c'est aussi le Paris Tour cycliste, départ de Chartres, c'est parti à 9h50, départ donc 213 km entre Chartres et Tours, avec notamment 9,5 km de chemin de vigne dans les 50 derniers kilomètres, donc arrivée prévue aux alentours de 15h-15h30, avenue de Gramont à Tours. Voilà, et puis l'équipe de France de foot, vous l'oubliez pas, elle est à Clairefontaine hein, pour préparer donc son match face au Portugal ce soir. Bon messieurs, Roland-Garros au mois d'octobre, le bilan de cette quinzaine, Nadal va gagner son 13e succès, Nicolas?
Ben écoutez, oui, j'espère.
Il n'a pas perdu un set.
Il n'a pas perdu un set et j'espère qu'il va arriver au même niveau de Grand Chelem que Federer, ça serait beau. Mmh. Ça serait beau qu'il soit les deux plus grands joueurs de tous les temps, qu'il soit au même niveau de Grand Chelem gagné. Mmh. Mais oui, enfin moi j'y suis allé deux fois cette année à Roland Garros.
Ah quand même.
Ah ben oui, attendez.
Vous avez fait partie des privilégiés.
Exactement. Donc et j'ai trouvé que c'est bon, il y a pas du tout la même ambiance, c'est pas ça. La même fête que on peut avoir au mois de mai. Mais bon, c'était pas mal, c'était bien organisé quand même. Même si c'est pas évident avec les conditions sanitaires, toutes les restrictions. Le niveau, je trouvais que ça jouait, enfin, ils avaient pas joué depuis un moment quand même les joueurs, mm-hmm. et le niveau était un peu moins performant que les années précédentes. Mais ben voilà, donc j'espère que Nadal gagnera.
L'image de Roland-Garros, c'est fin mai, début juin, on prépare en général les examens, on se voit Roland-Garros. Là, c'était le mois d'octobre, la pluie, heureusement qu'il y a eu le toit.
Ouais.
Heureusement, hein. Sinon, je sais pas comment on aurait fait.
Ah, exactement. Hein? Parce que le toit, ça, en revanche, c'est une vraie réussite parce que c'est vraiment super comme infrastructure. Heureusement qu'il y a eu le toit, sinon, ça aurait été compliqué de terminer les matchs.
Nadal, jusqu'à 1h30, hein.
Un peu plus tard, non?
Oui, oui. Une heure et demie, je crois. Il a fini un match à 1h30. Hervé? Roland-Garros au mois d'octobre?
Moi j'ai pas eu la chance d'y aller cette année. J'ai été allé l'année dernière.
Oui.
Et déjà j'avais trouvé que c'était un très beau stade, puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions aussi bien au niveau des cours annexes avec les nouveaux un peu cours entre le Suzanne Lenglen et le Central. La disposition, le nouveau cours avec les serres qui est vraiment magnifique aussi, et ça donne vraiment une autre ambiance, même si effectivement on avait loupé 2012 avec les Jeux Olympiques, mais enfin ça c'est une autre histoire, on n'en reparlera pas. Voilà. Et donc pour cette année, oui effectivement, le tournoi, les changements de date bien sûr, les conditions physiques qui sont pas les mêmes je pense pour les joueurs, parce que c'est beaucoup plus frais. Mmh. On a effectivement le court couvert qui est une très bonne chose, qui devrait être aussi couvert pour le Suzanne Lenglen
pour 2024. Ouais.
2024.
Ah, 2024.
2024.
Ouais. Pour les Jeux Olympiques, oui.
Ah, oui, oui.
Pour recevoir la boxe normalement, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais, ça.
Au niveau de la compétition, alors moi ce que j'ai remarqué, ben on parlait de Djokovic, on peut prendre le tableau homme, ouais. Ben, on s'aperçoit qu'effectivement il
c'est une finale classique, Hervé, hein, Djokovic Nadal, ça peut pas être plus classique.
Oui, ben, c'est ce qu'on attend un peu
tous. Numéro 1, numéro 2, hein.
Ouais, c'est voilà. Ce qu'on attend un peu tous. Oui. Alors moi je regrette un peu la non présence de Roger, puisqu'effectivement il s'était fait opérer du genou et on espère quand même qu'il va pouvoir revenir en 2021, qu'il va faire quelque chose. Je dirais le tableau somme toute relativement classique. Pour Djoko, sauf là dans le match qu'il avait fait en 4-7 précédent contre Corrano Pesta, où là on a senti un petit problème physique là avec son torticolis. Mais autrement, des matchs que j'ai pu voir et autres, toujours une énorme concentration, une énorme précision dans la frappe, la précision des coups, le point où il veut jouer. Et ça va être la grosse, je pense, le point fort que Djokovic va avoir face à Nadal.
Invaincu Nadal, hein, 12 finales, 12 victoires.
Oui, c'est sa 13e.
On aime les records. Là, il vit sa 13e victoire. On aime les records en sport, nous. Hein.
Alors là, Nadal, bon, là c'est sûr, c'est vraiment le champion terre battue avec toutes ses victoires à Roland-Garros. Moi je me souviens déjà quand j'étais venu au RVE il y a une dizaine d'années,
déjà Nadal.
Il avait remporté 2-3 fois Roland-Garros. Moi je me disais qu'on le voyait quand il était encore tout gamin, on se disait mais ce gars-là, il a une telle dépense d'énergie à chaque frappe de balle et tout ça, il va jamais durer. Et on se retrouve devant le fait accompli et il est toujours aussi performant, même si des fois il peut commencer les tournois avec là le manque de compétition. De match, ouais. Et ben on s'aperçoit que il a pas perdu un seul set aussi. Mmh. Hein,
oui.
Comme je disais, Djokovic a perdu un set.
Donc c'est favori même pour Hervé Guérin.
Moi, je le mettrais en favori.
Ouais,
je le mettrais en favori, mais ouais. Après, c'est dans la tête.
Oui,
si Djoko est très fort dans la tête, il peut faire changer la balance. Mais il y a tellement de renversements de coups avec Nadal où on le voyait pris et il a réussi à renverser les choses. Moi, j'ai peut-être une option effectivement sur Nadal.
En 5-7. Le match en 4-7.
Ouais, 4-7, donc je dirais.
4-7,
hein, si on fait des pronostics.
Ouais, 4-7.
Mais c'est vrai que pour revenir sur les conditions de jeu, les conditions de jeu sont vraiment très 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 différentes du mois de mai. Ouais. Les cours sont plus lents, la terre est plus lourde et puis il fait froid.
Oui,
donc
Nadal l'a dit d'ailleurs,
hein, c'est des conditions les plus dures qu'il disait avoir rencontré à Roland Garros. Donc ça peut être un élément, mais bon, il est tellement mentalement, il est tellement fort que.
Alors, on a eu quand même des matchs sympas. Bon, Team Gaston, ça a été le match qui a attiré l'audience télé. On a eu aussi un Team Schwarzman, ça n'a pas été facile. Hein, on croyait que c'était fait pour l'Autrichien. Puis voilà, ça s'est déjoué contre lui. Et puis même Djokovic,
Tsitsipas. Mais Schwarzman, pour revenir sur lui, il a gagné Nadal à Rome. Donc non, c'est un joueur super fort et cette année très en forme.
C'est quand même un gars, ça fait quand même 10 ans qu'il est professionnel, il a 28 ans, c'est quand même pas un tout jeune perdreau de l'année non plus. Faut savoir aussi qu'on a une Polonaise qui a gagné, il est d'origine polonaise.
D'accord.
Il est d'origine polonaise.
D'accord.
C'est son arrière-grand-père qui effectivement était d'origine polonaise. Après, il a été en Argentine.
Mmh. L'Argentin, c'est vrai que c'est pas un nom argentin. Par contre, Hervé, je sais que ça va pas lui plaire. Pas de Français et de Françaises en deuxième semaine. Ça fait des années qu'on dit ça. Dès les huitièmes, c'est.
Ça fait pas des années. C'est l'une des premières fois en seconde semaine. Hein.
Bon,
mais
c'est souvent qu'on dit que les Français n'arrivent pas à passer le stade des huitièmes.
Les huitièmes,
voilà,
donc deuxième semaine. Hein. Mais huitièmes, ça reste la seconde semaine.
Le début.
Moi, lundi. Donc j'ai été très content effectivement d'avoir Gaston parmi ce tableau au final, puisqu'il était dans les huitièmes.
Oui, il était invité.
C'est ça. Donc alors faut voir déjà le gabarit. Le gars, il a 20 ans, il fait 1m73 seulement, alors qu'avant on disait c'est que les grands qui peuvent gagner tout ça. Faut quand même savoir que le gars en 2017 il a remporté l'Orange Bowl. Il avait fait l'Open d'Australie aussi. Qu'il avait gagné. Il a été premier, il a fait son premier ATP en 2018. Donc tu vois, c'est quand même, très pour. Il avait fait ça à Marseille.
Ouais.
Il avait fait ça à Marseille. Et là, effectivement, comme tu disais, à Soran Langaron, c'est sur invitation.
Et il sort Wawrinka quand même.
Il sort Wawrinka. Alors là, j'étais sur ce match. Sincèrement, c'était super bien. Il y avait une super ambiance.
J'imagine.
Et avant, il a quand même éliminé Nishikori.
Oui, en plus.
Il a éliminé Nishikori. Et faut savoir, ce Gaston, il est à la 157e place. Et là, il arrivait en 52e. C'est la première fois qu'on a un joueur après la 50e place. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est assez phénoménal.
Mais le plus dur commence maintenant pour lui.
Oui.
Parce que refaire des espoirs comme ça, on le fait qu'une fois,
Mais Gaston, c'est quand même, il a gagné aussi, pour compléter Hervé, il a gagné les championnats, les Jeux Olympiques jeunes. C'est quand même l'espoir du tennis français.
Un des espoirs,
Mais après, c'est pas évident d'être fort en junior et après de passer le cap en adulte. C'est vrai que nous, en France, on parle de, justement, qu'on a du mal, que les joueurs français ont du mal à passer ce cap-là, mais bon, c'est pas évident. Je pense qu'il y a la technique, il y a le mental, il y a pas mal de choses, et il y a les médias aussi qui peut-être encensent aussi les joueurs, et ils prennent de suite un peu plus peut-être la confiance et travaillent un peu moins pour arriver au très très haut niveau.
Vous avez pas conscience qu'une nouvelle génération quand même arrive? On a vu quand même des tout jeunes arriver là.
Oui, mais
après
c'est perduré. On peut en passer avec les filles quand tu vois les tableaux de ce qui se passe des championnes mondiales qui se suivent les unes derrière les autres.
Oui.
Je voulais dire pour Gaston quand même que moi j'ai beaucoup aimé ces matchs qu'il a fait, et surtout même avec Tim, il a fait quand même 47 amortis. Ouais. 47 amortis.
Ouais.
On n'a jamais vu autant d'amortis depuis très très longtemps sur des matchs en Coupe Davis. Ils étaient tous à frapper de ceci ou de cela, et il y a une vision du jeu, il a un jeu très complet, moi je dirais déjà, et une présence d'esprit, une justesse dans son jeu, dans la vision du jeu, et ça m'a fait vraiment très très plaisir. On n'est pas que dans des diagonales, des ceci, des cela. Il est un peu comme, Roger, c'est un autre style, parce qu'il a, c'est un petit gabarit encore.
Hein. Ah oui.
Et ça, je trouve que c'était vraiment très riche d'enseignement. Je pense que pour nos jeunes qui regardent ça dans l'école de tennis et autres, le tennis, c'est pas que frapper que des grands gabarits aussi non plus.
Ouais.
Et ça,
alors c'est vrai que
ça m'a bien plu tout ça.
Cette année, il y a eu beaucoup d'amortis. Je trouve que l'amorti, c'est un coup qui revient vraiment dans le jeu de tous les joueurs sur le circuit aujourd'hui.
Mm-hmm. Donc, surtout en terre battue, hein.
Et en terre battue encore plus, exactement.
Et chez les femmes, donc les jeunes, Burel, c'est plutôt bien pour l'avenir.
Ouais.
Même si là aussi, elle passe pas les huitièmes comme les hommes.
Mais oui, c'est bien Burel. Burel, c'est pareil. Elle a gagné les Jeux Olympiques jeunes avec la même année que Gaston. C'est l'espoir aussi français avec Ferro. Mais aujourd'hui, Mladenovic, c'est toujours un blocage. À l'US Open, elle a connu la même chose et gagné, je crois, très facilement le match. Elle a eu un moment où elle a perdu pied. Et là, pareil, elle menait très facilement, une erreur d'arbitrage. Et elle s'écroule complètement. Donc là, il y a peut-être un souci autre, mais psychologique.
Bon, par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est Elsa Jacquemot qui a gagné l'épreuve en junior.
En junior, féminine, hein. Exactement.
Ça, c'est bien. Bon, après, le plus dur reste aussi à faire pour elle.
Ah là, exactement.
Hein. Bon, Siatek, la polonaise, donc qui s'impose, 19 ans, qui bat Kenin, donc américaine, 6-4, 6-1, expéditif, comme pratiquement tous les ans.
Ouais.
Pour les femmes.
C'est vrai, là, alors, elle est très jeune, elle joue vraiment bien, elle bat Alep en 8e. Non, elle a un gros potentiel, et je pense qu'elle va durer. Mmh. Mais c'est vrai qu'en fille,
c'est vrai qu'il y a un renouvellement.
Il y a un renouvellement permanent.
À l'inverse des hommes, comment vous expliquez ça?
Ouais, ça, ben, le niveau, en fait, chez les hommes. Chez les hommes, il y a quand même les trois meilleurs joueurs de tous les temps qui sont en même temps et qui gagnent tout. Mmh. Qui raflent tout depuis 15 ans, entre 15 et 17 ans.
Nadal, Djokovic, Federer,
et après, il y a eu du Murray, du Wawrinka, voilà.
Ou Tim récemment,
Et Tim, voilà. Mais c'est le premier de l'année gêne qui a gagné un grand chelem. Mais c'est vrai que, en homme, il y a vraiment les trois leaders qui gagnent gagne tout. Et après, il y a les 20 premiers mondiaux qui arrivent dans le dernier carré, voire quart de finale. En filles, dans les 20 premières, ça gagne, ça peut gagner tout le temps Grand Chelem. Mmh. Donc je trouve que le niveau de ces 20 premières, il est à peu près égal à peu de choses près. Donc elles peuvent toutes gagner à un moment donné.
Et les matchs sont spectaculaires chez les femmes.
Ah oui, oui.
Comment au niveau
Ah ben oui, après il y a moins de physique, moins de force, bien moins sûr. De puissance les que sports, les hommes, hein. Voilà. Oui, oui. Mais non, mais ça joue bien, ça joue tactique. Il y en a certaines qui montent au filet aussi, donc qui créent un peu de spectacle. Donc c'est très complet. Je trouve que c'est beaucoup plus complet presque qu'avant. Elles savent tout faire, tous les coups. Donc c'est vachement sympa à regarder.
Moi, je voudrais terminer sur le tableau homme qu'on n'a pas parlé. C'est l'Italien Jannik Sinner. Mm-hmm. Là, il arrive quand même en quart de finale. Il a 19 ans seulement. C'est aussi un jeune.
C'est cette génération qui arrive. C'est cette nouvelle génération dont on parlait.
1m88. Hein. Ouais. Il est professionnel que depuis 2018 seulement. Et il faut aussi rappeler, là, qu'à Roland-Garros, il élimine Goffin et Xeref. Mm-hmm. Enfin, c'est quand même pas des petits jeunes non plus. Mm-hmm. Et ça, je pense que vraiment, c'est hyper contre Nadal. Mais quand on le voit jouer aussi, c'est pareil. Il a un mental. C'est ce qu'il dit. C'est sa force première. Et je pense que celui-là, on n'a pas fini de le voir non plus. Il est en pleine progression. Et il faut savoir aussi une particularité. Il a été champion d'Italie à 13 ans en ski.
Ouais.
C'était exactement.
Ah, drôle de parcours,
c'était là, on le voyait.
Ah, il y en a
comme,
qui sont partout. Hein.
On le voyait comme la relève de la tomba.
Tomba la bomba.
Exactement. Et voilà. Et ça, je pense que là, il a un potentiel aussi, ce jeune. Et je pense qu'on va en reparler très rapidement.
Bon, pour les filles, Hervé.
Alors, pour les filles.
On a
Kenna. Alors, Kenna, américaine.
Elle a déjà gagné un tournoi.
Au départ aussi, elle, c'est une russe au départ. Mmh. Elle est née russe. Et c'est pas une inconnue puisqu'elle avait gagné après la Fed Cup et l'Orange Bowl quand elle était en junior. Elle était deuxième mondiale quand même en 2015. Elle était quand même aussi finaliste à l'US Open. Mmh. Donc c'est quand même pas une jeune. Et elle se développe vraiment. En 2018 elle est 15e là en 2020 et elle arrive quand même en quart de finale aussi à l'Open d'Australie. Moi, c'est une progression parce que elle a quand même que 21 ans, hein.
Elle a que 21 ans
et je trouve que là sa progression et son tournoi, alors dommage qu'on voit la finale d'hier, on voit qu'elle est blessée à la cuisse, mais je pense que dans sa combativité, comme on l'a vu, je pense que là vraiment aussi là, c'est une des prochaines. On voit plus les sœurs le Williams, ces choses comme ça. Là, j'ai pas suivi l'actualité au niveau si vraiment elle arrête ou pas la compétition Serena ou pas.
Ouais, je sais pas.
Et donc après, et ben on se retrouve effectivement avec notre polonaise.
Svetek. Svetek. 19 ans.
Ouais.
Voilà. Alors.
Qui passe le bac, je crois. Hein, qui est en train de passer le bac.
Voilà. Comme quoi on peut tout faire.
Exactement. L'année dernière. Alors, faut savoir qu'elle a été pour Roland Garros cette finaliste. Tu parlais tout à l'heure en début d'émission, ces féminines qui passent, puisqu'on n'a plus justement cette hiérarchie comme on avait autant de William qu'autant de...
Ça bouge tous les ans, hein.
De John Wayne et autres. Voilà. Sur les finalistes, il y a 12 joueuses différentes sur les 19 derniers Roland Garros. C'est énorme.
Ah, oui.
Elle a fait 28 jeux consécutifs cette année, et ça c'est un record depuis Steffi Graf en 1988.
Avant c'était la première fois. Les mêmes Navratilova, Graf,
exactement.
Everton, un peu plus loin, Goulagong.
Là les 20 premières peuvent gagner à tout. Elles peuvent gagner chaque tour.
Et elle n'a perdu aucun set depuis Hénin en 2007. C'est énorme. C'est énorme. Mais quand tu vois les distances, donc tu vois bien que là il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer aussi. Et c'est la plus mal classée depuis Roland Garros, puisqu'elle est à la 54e place. Et donc tu disais c'est une polonaise, et la dernière polonaise qui avait été en finale, qui a pas gagné, puisque c'est la première polonaise qui gagne. La dernière finaliste, ça date de 1939.
C'est quand même incroyable. Ouais, effectivement.
Bon. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Donc professionnelle. Hervé, envoyez la pub, hein. Bientôt.
Depuis 10 ans. Elle est championne junior.
Il est bien enseigné, hein. Il est bien
championne junior. En 2018 à Wimbledon, elle remporte aussi son premier tour. Elle est professionnelle que seulement depuis 2017. Et en 2019, elle est quand même en huitième de finale, pardon, à Roland. Alors, est-ce que j'enchaîne après pour
la... tu peux enchaîner sur la pub, tu peux lancer la pub.
Tu peux lancer la pub.
Voilà. Bon, bah alors, pub à RVE, allons-y.
On y va.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines 01 34 83 80 10. www.agendadiagnosticaupluriel.fr.
À Rambouillet, 14 bis Ruchal, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volets, portes et portes de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis Ruchal à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
RVE 103.7.
You Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, donc cette émission, bah, vous pourrez la réécouter naturellement en podcast, hein, très rapidement, notamment dans la soirée. Messieurs, juste un petit mot, après on rentrera dans la vie de vos clubs. Si je vous comprends bien, Noah 83 et Marie Pierce 2000, ils peuvent et elles peuvent dormir tranquilles.
Oui, oui, alors là, je voudrais quand même dire un petit mot là ce sujet, parce que à Roland-Garros, au niveau des simples garçons, on a quand même deux Français qui sont en quart de finale.
Oui,
faut quand même le dire. Et bizarrement, on a quand même le vainqueur et le finaliste, ce sont deux Suisses.
Oui, chez les hommes, c'est ça, tu veux dire.
Chez les hommes.
Ouais, ouais.
Chez les garçons.
Oui, mais jeunes,
Tout à fait. Et pour terminer, sur Roland Garros, quand même, on a Antoine Guibaudot au club du Perret, quand même, qui a passé un tour en simple et un tour en double aussi.
Eh oui, qu'on a reçu à ce micro il y a quelques années.
Sa première interview à la radio.
D'accord, effectivement.
Voilà. Donc, il fallait quand même le signaler. Un grand coup de chapeau à Antoine et à tout son staff et tout. Parce que je pense que ça a dû être un moment aussi important pour lui et tous ceux qui l'entourent.
Bon, bah, c'est bien comme ça, il y aura moins à attendre pour le prochain Roland Garros. Hein. Il y aura que 7 ou 8 mois pour retrouver Roland Garros.
Mais c'est vrai que pour les Français, je pense qu'effectivement, il y a quelques années, avant qu'un vainqueur potentiel se démarque, sincèrement, mais je pense qu'il y a un Gaston, il y a un Cazot, Harold Maillot. Il y a des jeunes qui arrivent qui sont vraiment
et ça vient
d'un très
club.
Bon niveau. Hein.
Et c'est bien.
Donc, voilà.
Bon, ça a été un booster pour votre entrée sur Roland Garros. Ça a été une dynamique pour votre rentrée, donc 2020, un peu différente, un peu particulière en raison notamment des conditions sanitaires.
Alors, effectivement, la rentrée s'est vraiment bien passée. En fait, on s'est servi de tout le mois de septembre pour rattraper les cours de l'année dernière. Donc, on a fait 4 semaines, les 4 premières semaines dédiées au rattrapage des cours 2020. Et on a commencé la saison tennistique 2020-2021, donc le lundi 28 septembre. Globalement, donc en fait, le fait de reprendre rapidement, tous les jeunes étaient vraiment investis, les réinscriptions se sont faites naturellement.
Combien là
Alors, nous on a terminé l'année à 515.
Ah oui.
Et là, on est déjà à presque 500 en fait.
D'accord.
Donc, je pense que même on fera mieux que l'année dernière. De toute façon, on était sur cette dynamique-là l'année dernière, mais sauf qu'on on a été stoppé par le Covid et par le confinement.
On peut encore s'inscrire, vous rejoindre.
Bien sûr. Alors, plus en cours, en cours, ni jeunes ni adultes. Je crois qu'on est, on a tous les cours qui sont blindés. Mais en revanche, pour des adhésions sèches pour jouer, il y a aucun sujet. Problème, bien sûr.
Ceux qui sont intéressés ou celles qui sont intéressées ce matin, ils vous contactent comment et...
Alors nous, on a deux permanences, le mercredi matin, le samedi matin. Après, il y a toujours, tous les soirs à partir de 17h, il y a toujours nos enseignants. Cette année, il faut savoir qu'on a 9 enseignants en tout. Donc, voilà, ça s'étend bien. Et donc, ceux qui veulent nous rejoindre et qui veulent adhérer au club, il n'y a aucun problème. Soit ils nous appellent, soit ils viennent au club. Il reste encore beaucoup de possibilités de jouer pour les adhérents.
Les tarifs, c'est de combien ?
Ah ben ça dépend. Une adhésion simple, on est à 216€, licence incluse, hors cours. Voilà, donc et ça permet de jouer tout au long de l'année. On peut jouer 2 fois par semaine pour essayer de permettre à tous les adhérents de jouer tranquillement. Parce qu'après il y a des accros qui pourraient jouer tous les jours, mais qui bloqueraient des créneaux pour ceux qui n'arrivent pas à se libérer trop souvent. Donc on a limité à 2 fois par semaine.
Alors moi je les connais, mais on va rappeler vos différents cours parce que ils sont utilisables 7 jours sur 7. Il n'y a pas de problème, quelles que soient les restrictions sanitaires.
Oui, ben aujourd'hui on n'a pas de restrictions sanitaires en tant que telles.
C'est-à-dire on peut venir à 10 sur le cours, on joue puis on accompagne, ça pose pas de problème.
Oui, mais nous déjà, on se pose pas ce problème parce que nos cours sont limités à 6.
D'accord.
6 plus l'enseignant.
D'accord. D'accord.
Voilà, les enseignants aujourd'hui portent le masque à chaque fois qu'ils donnent une heure de cours. Dans les vestiaires ou dans le clubhouse, on est obligé de porter le masque. Mais après, contrairement à Paris Première Couronne, les cours couverts sont exploitables. J'espère qu'il y aura pas de restrictions prochaines. Mais voilà, donc là, aujourd'hui, on n'a pas de contraintes. Ce qu'il faut, c'est se laver les mains. Donc on a mis des bornes hydro, partout, ouais, de gel hydro. Voilà. Et vous voyez, quand on a débuté le, tu vois, Philippe, le 12 mai, on a repris les cours. Là, il fallait qu'on, chaque joueur ait ses propres balles. Donc aujourd'hui, ça, c'est un critère qui est fini. Voilà. Donc pour l'instant, ça se passe bien jusqu'à la Toussaint. J'allais dire, voilà, il y aura pas de problème. J'espère qu'après, le préfet dans les Yvelines ne va pas durcir.
On l'a vu hier.
On est attentif.
On l'a même interviewé.
Ah oui.
On l'a vu hier au Salon du Cheval. Ouais. On écoutera cette interview donc dans nos journaux de demain.
D'accord.
Il y a eu des manifestations d'annulées. Il y a pas eu l'Open. Hein, ouais. Naturellement, nous, il n'y a pas eu les trophées Herve Tennis, il n'y a pas eu les finales Sud-Yvelines aussi de Masters de notre ami Jean-Louis Mazard. Bon, il n'y a rien de prévu pour cette année. Si le Téléthon, parce que la corrida de Rambouillet est annulée aussi pour le Téléthon. Hein.
Sachez que nous, là, on a organisé donc deux TMC.
Oui.
Là, il y en a un ce week-end encore. Des TMC, c'est des tournois multichance. Donc, on reçoit entre 8 et 16 joueurs. Mmh. Et là, on fait un TMC, donc 5-6-2-6, tout le week-end. Donc, pour organiser ces manifestations-là, on est assez strict sur le respect des gestes barrières. Mais tout se passe globalement bien. Mes enfants, ils ont fait des tournois dernièrement, que ce soit Mine Orange ou dans d'autres clubs. Globalement, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. Et donc pour la suite, j'espère que normalement les événements vont se tenir. Le Téléthon, ça va être le gros événement de la fin d'année pour le club, puisque nous, on est de manière historique.
Une histoire d'amour entre le Téléthon et le club de la carrière.
Exactement. Ouais. On organise cette manifestation tous les ans, on fait venir pas mal de monde, donc voilà, à voir comment demain cet événement pourra se dérouler, mais en tout cas on sera bien présent et on se tiendra on se tiendra prêt pour tenir cette manifestation.
Alors il n'y aura pas non plus de Téléthon du côté de Bullion, là aussi après hier de la part donc du maire de Bullion, monsieur Xavier Caris, il n'y aura pas du tout de Téléthon cette année sur Bullion.
D'accord.
Voilà. Okay. Hervé, comment ça s'est présenté cette rentrée au Perret, d'abord le nombre de licenciés.
Alors on avait bien commencé la saison dernière puisque on était à peu près à 170.
Ah, c'est bien.
À terminer, faut savoir que il y a encore deux ans on avait tout jeté à 130. Donc malheureusement le Covid est arrivé mi-mars où, donc là il a fallu tout arrêter. Nous, il nous restait 10 séances à faire qu'on a été obligé d'annuler. On a pu les rattraper donc en partie au mois de juin. Et on a mis quand même aussi les joueurs donc en chômage partiel. Donc on avait quand même les trois joueurs.
Les enseignants.
Ouais, vous enseignants.
Voilà. Donc ça c'est les mesures qu'il faut savoir financièrement aussi qui ont bien aidé les autres parce que au niveau d'autres clubs, je sais pas comment ça se passe. Tout le monde n'a pas demandé le chômage partiel, mais c'est surtout de voir un peu le contre-coup après comment ça va se passer, si ça continue ou pas. Donc on a préféré le demander et ça
nous... Ils le sont encore là actuellement là au chômage partiel.
Non, on reprend la saison normale. Enfin, faut lire un peu toutes les directives gouvernementales comment ça se passe aussi.
On a fait comme moi nous par exemple pour.
Donc voilà. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit coup de massue le 15 août, puisque les trois salariés que j'avais m'ont téléphoné les uns derrière les autres en me disant qu'ils démissionnaient. Donc il a fallu qu'en 15 jours, alors que les inscriptions avaient lieu fin août début septembre, il a fallu trouver de nouveaux enseignants. Sachant qu'avant cet été on avait eu un début d'année aussi, on avait eu un contrôle URSSAF et cet été la CMS. Donc ça a été très lourd, je dirais, de façon administrative, toutes les démissions à faire, les papiers, les ceci, les cela, voilà. Donc ça a été une rentrée vraiment très très spéciale et très très chargée avec le Covid en plus. Donc rechercher des enseignants, aussi bien mettre les annonces, faire les fiches de poste à réaliser, ceci ou cela. Donc ça m'a pris j'ai passé presque plus de 50 heures là en un mois en plus de mon travail. Donc là on a quand même fait les inscriptions. avec toutes les mesures de Covid et tout qui vont bien, puisqu'on limitait le nombre de places, on a fait deux grandes inscriptions aussi bien fin août au niveau du club, on a fait ça carrément dans les cours couverts pour respecter la réglementation, et on l'a fait aussi opérer dans le cadre du forum 8 jours après.
Oui, parce qu'il y a eu un forum opéré, ce qui a pas été le cas sur Rambouillet.
Sachant que là, le maire a une bonne initiative aussi, puisqu'au lieu de faire ça dans la salle des sports, on a fait ça au COIE, donc anciennement la SPTT, où là ça s'est fait sur les deux cours de tennis couverts, et donc on a pu aussi récupérer aussi du monde. Cela dit, donc la rentrée reste un peu catastrophique dans le sens où effectivement on n'a pas du tout récupéré notre nombre d'adhérents, puisqu'on a 50 adhérents en moins, là on est à un peu plus de 110. Et par contre, la bonne.
À cause du Covid, Hervé, vous pensez que les gens ont peur, tout ça que...
Oui, je pense qu'il y a tout un tas d'éléments.
Mais enfin, ils peuvent venir s'inscrire, c'est pareil, hein, ils peuvent venir carrément.
Tout le long de l'année,
ouais, ils vont au club house, au gymnase.
Déjà par les sites internet, les communications qu'on met avec les différents réseaux, et aussi venir tout simplement le soir, le club est ouvert quand il y a les cours tous les soirs de la semaine.
Et la fourchette de prix, c'est pareil.
Alors les chutes de prix, une inscription simple adulte, tu vois, c'est 150 €, d'accord, un jeune c'est 100 €, donc c'est vraiment des prix très très variables. Je crois qu'on est les moins chers dans le secteur. Pour terminer dans ce que je disais, donc heureusement on a pu reprendre les cours comme on a voulu le 21 septembre. Donc on n'a pas perdu de temps. Donc je dis en un mois, il a fallu que je s'arracher pour que tout redémarre. On a retrouvé un professeur. Donc je remercie donc qui s'appelle Tol Lao. Voilà, donc on est en train de mettre en ce moment un projet. On doit voir la mairie très prochainement aussi, d'essayer de voir comment on peut se repositionner aussi, parce que c'est une nouvelle équipe municipale opérée.
Il faut en profiter, il y a des nouvelles équipes,
de projets. C'est très important le lien entre les associations, la mairie et autres. Donc voilà, j'ai eu des premiers contacts moi aussi avec le maire adjoint chargé des sports. Là, on souhaitait le rencontrer effectivement avec les personnes du bureau, et donc on va essayer de progresser dans ce qu'on peut faire. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en route. Je voudrais juste aussi rajouter que on a fait le tournoi RVE en interne.
On avait quand même
une vingtaine de personnes, et donc ça faisait plaisir.
C'est bien, ils y sont tellement accrochés.
C'est exactement ça. C'est vraiment d'avoir cette ambiance.
On est fiers de ça, Hervé. Hein.
J'ai pas eu le temps, excuse-moi, de te prévenir, parce que j'aurais voulu que tu participes, tu vois.
Moi, j'ai été prévenu d'annulation.
Voilà, comme quoi, effectivement, c'est ancré. C'est ça que ça veut dire.
Non, mais c'est bien.
On a tenu à le faire, et voilà.
Bon, il y aura pas de nom quand même, il y aura pas la plaque du Perret.
On a pu faire quand même aussi un TMC fin août, début septembre aussi avec les jeunes, ça c'est important. Voilà, donc c'est une rentrée qui a pu se faire quand même malgré tout, malgré les conditions de Covid et tout ça.
Chapeau en tout cas.
Voilà, j'espère qu'on aura une année qui va pouvoir se faire, on va pouvoir progresser. L'objectif, c'est effectivement qu'on puisse récupérer nos adhérents, ça va être le premier objectif.
Et il y aura le Téléthon aussi opéré, parce que je sais que le Perret ne fait plus le Téléthon officiellement. Le rigole a été supprimé aussi, enfin il n'y aura pas de rigole cette année. Par contre, il y aura quand même une petite activité Téléthon opéré
Je souhaite qu'on puisse comme tous les ans la voir cette année avec les... Alors après on va être limité si Covid ou pas il y a, mais l'idée c'est quand même de puisse avoir un Téléthon au club.
Et c'est pareil pour les balles, ça sera quoi le projet du Téléthon?
Comment?
Pour le Perret, ça sera quoi le projet du Téléthon? Il y aura un thème, non?
Non, on essaie, là je te dis, là on est en train de monter le projet, c'est tout chaud, il y a beaucoup de choses à voir, on essaie de faire déjà les trucs traditionnels, que ça soit avec les vacances, avec Halloween, des choses comme ça qui vont arriver maintenant, des choses comme ça, mais si effectivement on est limité seulement à 10 personnes et autres, donc ça risque de compliquer. Donc on est en train de voir justement, c'est pour ça qu'on est en lien avec la mairie, savoir que comment on peut essayer de se projeter par rapport à tout ça.
Et pareil pour les balles, tout le monde peut toucher les balles, il n'y a pas besoin d'apporter ses propres balles.
Actuellement, aujourd'hui, le ministère des sports n'a pas de contre-indication de spécificité à ce niveau-là.
En fait, aujourd'hui, il n'y a que Paris et la première couronne qui est contraint au niveau des cours couverts. Il n'y a que les jeunes qui peuvent jouer sous les cours couverts. Mais pour les adultes, c'est terminé. Il n'y a plus de cours adultes en cours couverts, Paris et première couronne.
Donc j'espère qu'on ne trouvera pas dans cette difficulté, et parce que là vraiment autant effectivement on voit bien que dans toutes les interviews qu'on peut avoir dans la télévision et radio des professionnels, que ça soit les restaurants ou même les entreprises et autres, au niveau des sportifs, c'est pareil, là ça va être un coup de massue si effectivement on revient dans le confinement.
Oui, bah surtout que vous en plus, bon, vous êtes un sport qui peut être fait en plein air mais aussi en indoor comme on dit, hein.
Mais exactement, et puis ouais. Nous par défaut on n'a aucun contact avec son adversaire ou son collègue.
Comme un art martial ou bien
non, mais voilà. Par exemple. Et la distanciation, elle est respectée de fait.
Alors, donc, on a quand même aussi été privilégié le tennis, je dirais, puisque moi, on a le Perret, on a été les premiers clubs à rouvrir dès le 11 mai et de reprendre les cours dès début juin. Alors que, par exemple, au Perret, toutes les salles, le gymnase, les deux gymnases, tout ça, les salles sportives sont restées fermées. Alors moi il y a un truc quand même aussi qu'il faudra qu'on m'explique. Quand tu vas sur le site de la Fédération Française du Judo, tu t'aperçois qu'ils ont aussi tout un protocole de se désinfecter les mains de ceci, de cela et autres, c'est très bien. Ils se changent, ils arrivent sur le tatami et après ils mettent les masques dans le poche et ils commencent à s'étriper joyeusement. Là, je voudrais qu'on explique quand même la distanciation, tout ça. Là, c'est pas respecté. Mais bon, moi, je veux pas intervenir à ce niveau-là, mais ça pose quand même des questions, quand même.
Mais c'est vrai qu'on a été le premier sport et presque le seul sport à avoir repris le 12 mai, quoi. Le 12 mai. Donc ça, c'est vrai que ça a été quand même un avantage, notamment pour notre rentrée et les préinscriptions. Donc voilà, ça il faut le souligner. Hein.
Très bien, allez, on va écouter la deuxième page de pub et puis la deuxième pause musicale et ensuite tiens, on va parler des prochaines élections, messieurs. Hein. Vous D'accord. êtes concernés plus
Exactement.
Que jamais. Allez, on y va.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
RVE, vivez votre région.
Attention à la voilà son avion au bout de la piste. Attention au cœur qui bat beaucoup trop fort et beaucoup trop vite. Attention aux yeux, l'éclat du soleil autour du cockpit. Attention, bravo, combat, passager très spécial en transit.
votre région avec RVE.
Voilà, on va finir cette émission. Alors messieurs, il y a des élections très prochainement pour le tennis. Hein. Il y en a eu pour le rugby où Bernard Laporte donc a été réélu à la tête de la Fédération française. Il y en aura aussi très prochainement pour le tennis. Il y a des candidats qui se présentent. Vous, ces candidats, qu'est-ce que vous en attendez, Nicolas?
Oui. Alors, il y a deux listes. Donc aujourd'hui, il y a le pouvoir en place représenté au niveau local par Francis Éveillard. Et alors moi, je fais partie de la liste donc opposante conduite par William Petrovic.
Oui. Et pourquoi?
Alors parce que en fait nous on suit la directive Moreton. Nous on est vraiment dans cette logique ensemble pour notre tennis. Voilà, et en fait j'ai été attiré par ce projet notamment au niveau des valeurs autour du tennis, valeurs autour de revaloriser les clubs. Mmh. Aujourd'hui les clubs ne sont pas, on les écoute pas assez.
Oui.
Je prends juste un exemple, la Coupe Davis. Alors ça ne concerne pas tous les présidents, on n'est pas touché par ça, mais ça montre à quel point la gouvernance aujourd'hui elle est de Paris. Et on n'écoute pas les clubs, c'est qu'on n'a jamais interrogé les clubs pour savoir si la Coupe Davis c'était un élément important dans le tennis pour les présidents. Est-ce que
c'est
c'était
mythique, la Coupe Davis.
Voilà,
quand
c'est
on gagne la Coupe Davis,
il y a les grands chelems, la Coupe Davis
et la
Fed Cup.
Et pratiquants fatalement.
Voilà, c'est les trois piliers du tennis. Et aujourd'hui, il y a 18 personnes du COMEX plus le président de la Fédé qui ont pris la décision unilatérale de dire on arrête le format Coupe Davis pour faire un format tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a eu un succès hyper mitigé à Madrid l'année dernière. Voilà, ouais. C'est ce genre de choses. En fait, sur les valeurs, sur la gouvernance et après sur le projet, je trouve qu'aujourd'hui le projet est plus complet. Donc Gilles Moreton avec son équipe, Patrice Ajelauer, aujourd'hui il y a François Geoffrey et autres. Mmh. C'est des gens qui connaissent bien le tennis. Voilà, rendre les clubs plus forts, redescendre un peu plus d'argent aussi dans les clubs, voilà, et rendre le tennis convivial, c'est-à-dire nous par exemple au niveau local, au niveau des Yvelines, on va aider les clubs à se structurer au niveau de l'accueil, renforcer les investissements sur les clubhouses par exemple, sur les infrastructures couvertes. Donc le comité a pour ambition justement d'aider les clubs à se transformer au niveau de l'accueil des adhérents.
Alors, est-ce que c'est des préoccupations que partage notre ami Hervé?
Oui, moi toutes ces idées, moi j'ai pas de contre-indications, de choses comme ça là-dessus. Moi le constat que j'ai pu faire par rapport aujourd'hui au programme que fait Moreton, c'est que il y a pas de constat actuel là, dans les 68 pages. J'ai pas vu le constat actuel. Le programme il est très bien hein, avec les 10 engagements proposés et tout ça. Voilà, mais ça, je dirais, c'est. Alors, je vais pas dire à copier-coller, mais je veux dire par rapport à ce que propose aujourd'hui la fédération, il y a des choses similaires. C'est peut-être pas dit de la même façon.
C'est-à-dire qu'on entend les clubs. Pour vous, contrairement à ce que dit la liste Moreton.
La FFT dans le principe est toujours. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Leur pyramide, c'est la base, c'est quand même les clubs aussi. Voilà. Mais c'est pareil, non, mais sans vouloir polémiquer et tout ça, moi c'est très difficile on va pas tout changer. Je veux dire, c'est un peu comme dans les mairies, quand t'as les changements d'équipe, je veux dire, dans une mairie, tu sais déjà que t'as 60% du budget déjà, c'est pris par les salaires, les ceci, les cela ou autre. T'as 20% d'après de fonctionnement qui est pris par autre chose. La marge de manœuvre après pour le reste elle reste minime. Voilà. L'histoire de la Coupe Davis. Tu pourrais très bien dire effectivement les grands joueurs ont osé dire on devrait conserver la Coupe Davis, Yannick Noah en premier machin dans cette formule actuelle et tout ça. On s'aperçoit que on s'aperçoit que le problème il est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a d'énormes enjeux financier et si on conservait cette formule là ça aurait peut-être pas marché. Non mais c'est ça le sport, faut voir aujourd'hui ce que le sport génère en termes d'argent. C'est phénoménal.
Alors
c'est phénoménal.
On disait qu'il y avait des joueurs qui étaient plus intéressés par jouer la Coupe Davis parce qu'ils gagnaient moins.
Mais on voit bien ce que fait Djokovic au niveau des joueurs aussi ATP, puisqu'il veut faire une autre structure.
Une autre structure que l'ATP.
On n'en sort pas, ça se divise de partout. On n'en sort pas de ce truc-là après. Et ça, c'est très regrettable. C'est très regrettable.
Alors, c'est vrai, mais moi, en fait, moi, ce que je dis sur la Coupe Davis, c'est pas qu'on change de format parce que je trouve que il fallait changer quelque chose.
Ah bon?
Mais
ah bon?
Oui, parce que il y a des joueurs. Non, mais il fallait garder il faut garder la Coupe Davis telle qu'elle était. Ouais. Mais est-ce que peut-être il fallait la faire tous les deux ans? En fait, que ce soit un événement comme la Coupe du Monde de football, voilà. Ouais. Mais là, on a complètement changé le format. Mais surtout, on n'a pas interrogé les clubs. C'est juste ça que je dis. C'est que et c'est vrai que quand la Coupe Davis, par exemple en France, on la reçoit, soit on va jouer à Lille, soit ils vont jouer n'importe quoi à Reims ou à Nîmes. Le comité donc Occitanie, voire le Gard, se réunissent si c'est à Nîmes, et donc les présidents de clubs viennent, font participer les jeunes pour venir voir les matchs une journée ou deux.
Ça.
Et ça, c'est super.
Magnifique.
Aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est juste ça que je dis. C'est dommage de ne pas avoir mis dans la confidence et dans le vote les présidents. C'est voilà, je trouve que les présidents devraient, les présidents de clubs, enfin, je dis les présidents parce qu'aujourd'hui c'est ceux qui votent pour le comité, mais pour les clubs, ils doivent être, je trouve, beaucoup mieux informés de ce qui se déroule et qui puissent donner leur décision sur certaines valeurs ou sur certaines décisions qui pourraient être prises par la FFT.
C'est quand, messieurs?
Le 6 novembre,
à
Feucherolles, à 18h30. Donc là, c'est le comité des Yvelines qui sera élu, plus les délégués.
D'accord.
Puisqu'il y a 3 délégués des Yvelines qui seront élus. La semaine suivante, le samedi, donc 13, c'est à Rungis pour l'Île-de-France.
Ah d'accord.
Voilà. Et ensuite le 12 décembre, c'est pour la FFT.
D'accord.
Et pour la FFT, la particularité de ce vote, c'est que là, c'est pas les présidents qui votent, c'est les 198 délégués. Donc en fait, le 6 novembre, on va voter, les présidents vont voter pour la liste qui va diriger le comité départemental et trois délégués, et c'est ces trois délégués là qui vont aller voter le 12 décembre.
C'est pyramidal, voilà.
Ouais. Eh ben messieurs, merci, si vous voulez revenir en parler, il y aura aucun problème.
Hein. Merci.
Merci en tout cas Nicolas.
Merci beaucoup
d'avoir donc d'être venu parler de la rentrée. Merci donc Hervé.
Merci Philippe pour cette invitation de retour à RVE. Voilà. Je voulais encore féliciter Antoine Guibaudot. J'espère qu'on va le revoir encore très prochainement et qu'il va progresser. Voilà.
Voilà. Et puis bonne finale de Roland Garros à partir donc de 15h. On va remercier Guillaume et puis n'oubliez pas aussi que c'est la suite du salon du cheval jusqu'à 19h ce soir à l'hippodrome.
Ah, c'est le retour à l'hippodrome. Oui, exactement.
Ah, ouais. Non, c'est sympa. Voilà, bon dimanche à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.
National et international dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. 40% des infirmiers souhaiteraient changer de métier. Tel est le résultat d'une consultation menée à l'échelle nationale et parue ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. La crise sanitaire liée au coronavirus n'est pas seule en cause. Elle n'a fait qu'aggraver une situation déjà bien dégradée. Avant l'épidémie, les soignants manifestaient déjà et dénonçaient le manque de moyens et d'effectifs dans les hôpitaux publics. Un accident rarissime. Hier, un avion de tourisme a percuté un ULM en Indre-et-Loire. Le bilan provisoire fait état de 4 morts. Une personne probablement tombée de l'avion est toujours recherchée. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Le secrétaire d'État au numérique Cédric O dévoile